Du haut de son céleste palais, le fils de Saturne voit les crimes de la terre. Il gémit, et se rappelant l'horrible festin de Lycaon, le souvenir d'un crime trop récent encore pour être connu, allume dans son cœur un courroux extrême, digne du maître des dieux. Il les convoque. Aussitôt il s'assemble à sa voix. Il est au haut des cieux une voix que signale sa blancheur éclatante quand l'air est pur et sans nuages. On la nomme Lactée. C'est le chemin qui conduit les dieux à l'auguste séjour du maître du tonnerre. On voit aux deux côtés s'ouvrir à deux battants les portiques des dieux patriciens. L'Olympe a semé loin de là les demeures de ses plébéiens. À l'entrée de l'avenue, les plus puissants des immortels ont fixé leurs illustres pénates. Ce lieu, si la hardiesse est permise à mon langage, figure dans les cieux le palais de César. Lorsque les dieux ont pris place sur des sièges de marbre, assis lui-même sur un trône plus élevé et s'appuyant sur son sceptre d'ébène, Jupiter agite par trois fois sa redoutable chevelure, et trois fois la terre et la mer et les cieux même en sont ébranlés. Alors, son indignation s'exhale en ces termes. Oui, je fus moins alarmé pour le royaume du monde lorsque les géants aux pieds de reptiles menacèrent de leurs 100 bras le ciel assiégé. C'étaient de terribles ennemis, mais cette guerre n'avait pour cause qu'un seul crime et pour soutien qu'une seule race. Je ne vois aujourd'hui que coupable dans toute l'étendue que Nérée embrasse de ses ondes bruyantes. Et c'est le genre humain qu'il me faut perdre tout entier. J'en jure par les fleuves souverains qui coulent à travers les bois infernaux. J'ai tout tenté pour son salut. Mais il faut trancher avec le fer une plaie incurable, de peur qu'elle ne gagne les membres encore sains. Je tiens sous mon empire les demi-dieux et les divinités champêtres, les nymphes, les faunes, les satyres et les sylvains habitant des montagnes. S'ils ne sont point encore admis au partage de nos célestes honneurs, laissons-les du moins jouir en paix de l'asile que nous leur avons donné sur la terre. Et pouvez-vous croire qu'ils y soient en sûreté quand j'ai vu, moi, le maître de la foudre et le vôtre, dresser contre moi-même les embûches de Lycaon, ce monstre que vous connaissez? Tous les dieux frémissent à ces mots et brûlent de punir cet attentat sacrilège. Ainsi, lorsqu'une main impie, acharnée à la perte de César, entreprit d'éteindre dans son sang l'éclat du nom romain, un si funeste dessein jeta la consternation et l'effroi dans toutes les âmes. Tout l'univers en tressaillit d'horreur, et l'amour de tes peuples ne te fut pas moins doux, ô César, que les ailes des dieux ne le fut à Jupiter. Il apaise les murmures du geste et de la voix, on se tait, et le respect imposant silence à l'indignation, il reprend son discours en ces mots. Le coupable est puni, rassurez-vous. Apprenez à la fois et le crime et la vengeance. Le bruit de l'iniquité des hommes avait frappé mes oreilles. Je souhaitais qu'il fût mensonger, et descendant des hauteurs de l'Olympe, je cache ma divinité sous les traits d'un mortel, et je parcours la terre. Il serait trop long d'énumérer les crimes dont je fus le témoin. La réalité dépassait encore les plus funestes récits. J'avais franchi le Ménale, horrible repère de bêtes féroces, le Silène et les forêts des pins du froid lissé. Arrivé en Arcadie, je pénètre dans la demeure inhospitalière du tyran, à l'heure où le crépuscule annonce la nuit qui s'avance. Je révélai par des signes certains la présence d'un dieu, et déjà le peuple en prière me rendait hommage. Lycaon se rit de leur pieuse crédulité. « Je vais, dit-il, m'assurer s'il est dieu ou mortel, et l'épreuve ne sera pas douteuse. » Il s'apprête à me surprendre la nuit dans les bras du sommeil et à m'ôter la vie. Voilà l'épreuve qui plaît au perfide. Non content du trépas qu'il m'apprête, il égorge un des otages que lui avaient envoyés les molosses vaincus, fait bouillir une partie des membres palpitants de la victime, livre le reste à l'ardeur de la flamme, et ses mets exécrables sont ensemble servis devant moi. Aussitôt ma foudre vengeresse fait crouler son palais sur ses pénates bien dignes d'un tel maître. Il fuit épouvanté, il veut parler, mais en vain. Ses hurlements troublent seuls le silence des campagnes. Sa gueule s'arme de la rage qu'il avait dans le cœur, et toujours affamé de carnage, il tourne sa furie contre les troupeaux et jouit encore du sang qu'il fait couler. Le poil remplace ses vêtements, ses bras deviennent des jambes. Loup cruel, il conserve quelques restes de sa forme première, la couleur grisâtre de ses cheveux a passé dans son poil, le visage farouche, les yeux ardents, tout en lui respire cette férocité qui lui fut naturelle. Une seule maison venait de périr, mais plus d'une maison méritait le même sort. La cruelle Érinice étend son empire sur toute la terre. On dirait que les hommes se sont voués au crime par serment. Qu'ils périssent tous sur le champ, ils l'ont tous mérité, j'en ai porté l'arrêt irrévocable. Les dieux approuvent les paroles de Jupiter, ceci par de bruyantes acclamations et en excitant son courroux, cela par un muet assentiment. Mais la perte du genre humain est pour tous un sujet de douleur. Que deviendra la terre, veuve de ses habitants? Qui désormais brûlera l'encens sur leurs autels? Va-t-il donc livrer le monde à la fureur des bêtes féroces? Le souverain des dieux se charge de pourvoir à tout. Il fait cesser leurs demandes et leurs inquiétudes en leur promettant une nouvelle race, différente de la première et dont l'origine sera merveilleuse.